Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le jeudi 20 février 2020 et vous écoutez le débrief du jour 0 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus, et pour ce débrief, je suis accompagné par une bonne partie de la team Proxy Jeux. Je vais tenter de faire le tour de table. Attention, accrochez-vous. Salut Astien.
Salut Cyrus.
Salut Pionfesseur.
Salut Cyrus.
Salut Paul Gara.
Salut Cyrus.
Salut Twin.
Salut Cyrus.
Il y a également Cargo.
Salut Cyrus.
Ben Noël.
Salut Cyrus.
Et Hammer.
Eh oui, bonjour Cyrus.
Et... comme nous pensions ne pas être assez nombreux ce soir, nous avons décidé d'inviter un invité exceptionnel, un guest, j'allais dire, mais bon, c'est un mot anglais. Nous avons avec nous Simon du Passe-Temps.
Salut Cyrus.
Salut Simon. Donc tu es Simon du Passe-Temps, hein, c'est ton nom de famille, hein, tout le monde le sait.
Oui, mon nom de famille n'était pas terrible, j'ai pris celui-là à la place. Mes parents, j'espère qu'ils ne l'écoutent pas.
La particule, en plus, ça fait classe.
Oui, c'est Simon de Le Passe-Temps.
De Le Passe-Temps.
On vient de décider ça, c'est vachement mieux, je trouve.
Et Le Passe-Temps, c'est où?
C'est à Toulouse.
Et c'est quoi?
C'est un des 8, 9, 12, c'est un des énièmes magasins de jeux de Toulouse. Ça fait 20 ans que ça existe. Et, y a plein de gens sympas, il y a plein de jeux, on fait que du jeu de société.
Ouais. Et vous êtes combien de vendeurs au Passe-Temps?
On est 4 et un patron. Ça fait qu'on est 5.
Ouais, il compte pas, lui.
Non, il vend pas. Il prend de l'argent.
Mais tu n'es pas que vendeur en boutique.
C'est ça, je suis vendeur le jour et youtubeur la nuit. C'est ma phrase d'accroche, elle est vachement bien.
Ah, c'est pas mal,
j'ai un peu travaillé. Ouais, du coup, je fais depuis 2 ans maintenant, un truc comme ça, on fait les malins sur YouTube avec mes collègues. Et on pensait que ça allait faire marrer 4 personnes, et en fait, au final, ça en fait marrer un peu plus. Alors, du coup, on continue.
C'est quoi, 4000 dans ces eaux-là? Largement même, non?
4000.
Il y a combien d'abonnés sur la chaîne du Passe-Temps?
Bah, bientôt 40 000.
40 000, pardon. Ouais, moi, j'ai raté un zéro, là.
Non, j'ai vu ça le jour, quelqu'un m'a dit, mais vous avez fait 4 millions de vues au total? Je fais, mais non. Et j'ai regardé, en fait, si. Enfin, 3 900 000 et quelques, mais ça, tous les jours, ça monte, quoi. Ouais. Ça repart jamais en arrière.
Un beau succès. Vous avez plein de formats. Enfin, vous faites vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire. N'hésitez pas à sortir de votre boutique.
Mais on a des trucs dans lesquels tous les 2 mois, on va dire, ok, pour nous, ce qu'il fallait acheter, c'était ça. Enfin, nous, si on était rentré dans un magasin de jeux, on aurait acheté ça.
Des trucs que vous avez en stock, quoi.
Bah, en fait, le but, c'est de dire aux gens, allez trouver ça dans les magasins. Alors, effectivement, on va dire des trucs qui sont disponibles en stock dans les magasins. C'est plutôt l'idée de dire, on a kiffé. Alors, c'est réimprimé en décembre, mais c'est génial. Ça, on évite de faire, parce que ça sert à rien de créer de la frustration. Mais, et après, du coup, entre tout ça, on fait ce qu'on veut. Alors, des fois, on va se balader à Kailus, des fois, on fait des tops de machin, des fois, on va se déguiser dans la forêt, on fait les malins sur route. On se fait plaisir.
Alors on va merci écoute pour toute cette présentation. N'hésite pas à intervenir hein, au même titre que l'ensemble des chroniqueurs autour de la table.
J'hésite pas.
Super. on est venu donc sur le Festival de Cannes, vous le savez, pour faire des interviews. Entre autres, hein, on est aussi venu pour jouer, mais on va vous ramener à vous, chers auditeurs, un bon paquet d'interviews. On a une petite quarantaine d'interviews qui sont programmées. On a déjà réalisé quelques interviews aujourd'hui. Alors Pionfesseur et moi avons réalisé les 2 premières interviews.
Ouais, c'est ça, on a fait une interview de Florent Toscano et Julien Protière, qui est l'auteur, donc, de l'auteur et Florent Toscano, l'éditeur de Cosmopolite. Donc, on a un peu revu tout ça. Et on a fait une interview de Cocktail Game. Alors, on voulait avoir Mathieu Despnous, n'est-ce pas, Cyrus?
On devait avoir Mathieu Despnous, puis je sais pas, c'est Mike qui est arrivé.
Voilà.
On a dit, on t'accepte quand même, hein.
Mais il était sûrement en train de se faire racheter par Asmodée, je pense.
Ouais, on pense, ouais. On a posé la question, mais visiblement, ce serait pas le cas. On vous laissera écouter l'interview. Et puis l'équipe de Twin et Astien a suivi et donc a réalisé d'autres interviews.
Oui, du coup, avec Twin, on a eu Gigamic au micro pour parler un peu de leur nouveauté et justement de leur petit rachat par Hachette qu'il y a eu il y a quelques mois.
On a aussi reçu les Lumberjacks avec Antoine Roffet et Xavier Avril. C'était une interview pleine de testostérone. Vous allez adorer ça.
On a enchaîné avec Théo Rivière qui est venu nous parler de ses petites nouveautés. Et de The Loop, qui est en test proto chez Cocktail Game.
Et enfin, on a reçu Cyprien Delpuech, qui est venu nous présenter la nouvelle entité Funny Fox.
Voilà, donc déjà 6 interviews, si j'ai bien compté, hein, qui sont dans notre disque dur. Allez, on va monter tout ça en rentrant. Donc c'était aussi aujourd'hui la première journée qui était réservée aux professionnels. Donc aujourd'hui peu de public, hein, mais beaucoup de, bah, pas mal de tables libres du coup, la possibilité de jouer à pas mal de choses. Tu l'as vécu comment toi, Simon, cette journée pro? Tu avais déjà eu l'opportunité de venir l'année dernière?
Ouais, ça fait quoi 2-3 ans maintenant que je viens sur Cannes. Bon, parce qu'il faut évidemment lâcher un magasin pour pouvoir venir, donc il faut s'organiser pour venir. C'est grosso modo assez agréable en tant que magasin de pouvoir se balader là-dedans. Tu vois tous les gens du milieu, c'est un super entre-soi. Tu vois tous les auteurs, tous les gens avec qui tu bosses toute l'année. Et tu évites la foule. T'as l'occasion, en fait, de pouvoir prendre le temps de jouer. En fait, on a aussi pas mal de salons, nous, en tant que boutique, qui sont à Vichy, Asmodée aussi fait des journées comme ça. Et du coup, Cannes, c'est un peu l'occasion d'avoir un truc qui s'apparente à ça. C'est des rares moments de l'année dans lesquels on joue au sein de notre boulot. Ce qui est assez agréable.
Ouais, bah, c'est clair que on est quand même dans des bonnes dispositions, du coup, pour essayer les jeux, là. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même des stands, je sais pas si t'as remarqué, mais par exemple, Yellow, ils ont très très peu d'animateurs, beaucoup de tables, mais en gros, ils se mettent pas entre guillemets en ordre de marche pour accueillir les gens aujourd'hui.
Alors, ce qui se passe généralement, c'est que nous, on a des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on dit, on a Yellow à 15h et t'arrives et tu as, bah, ta commerciale généralement, ou ton commercial, qui est là pour te recevoir, pour te faire jouer au jeu, tout ça, machin. Mais c'est vrai que si tu n'es pas dans ce cadre-là de trucs un peu professionnels, je sais pas comment c'est organisé pour la presse, tout ça, je maîtrise pas ce sujet.
J'imagine qu'il y a la possibilité de prendre des rendez-vous aussi pour la presse, hein, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, quand tu vas sur le stand, les gens qui prennent des billets VIP, tout ça, effectivement, si tu prends pas de rendez-vous, bah, sur le stand, il y a des stands où ça manque un peu d'animateurs, quoi. Et de jeux, même sur les tables, en fait. Donc, t'as les tables vides, quoi.
Ah, t'as des tables vides à Cannes?
Ouais.
Ok, d'accord. Okay.
Y a rien de posé dessus, toi.
Mais non, mais c'est peut-être parce qu'on est la veille de l'installation, de l'ouverture.
Oui, non, mais bien sûr. Okay. Je parle d'aujourd'hui, hein.
Là, tu dis aux gens, venez à Cannes, il y aura des tables vides. Ce sera sympa.
Bah, venez à la journée, en tout cas, réservée pro, ouais, effectivement. C'est confortable. Ok, on va passer à la partie jeu maintenant. Chacun va pouvoir peut-être parler d'un jeu qui lui a tapé dans l'œil aujourd'hui. Je propose qu'on commence vers ma gauche. Alors évidemment, c'était pas du tout radiogénique, mais Astien.
Alors moi aujourd'hui, j'ai pu jouer à Crime Zoom de Stéphane Anquetil chez Aurora Game. Donc Stéphane Anquetil, je sais pas si vous connaissez, mais il est co-auteur sur l'extension de Chronicle of Crime, donc il a déjà fait quelques jeux d'enquête, et là du coup il sort chez Aurora Game Crime Zoom, un petit jeu qui pour moi m'a fait ressentir un peu les mêmes sensations que Sherlock Q-System. Donc on est sur un jeu rempli de petites cartes, voilà, c'est que un jeu de cartes, et on va avoir une scène de crime devant nous qui est représentée par un panorama de cartes. Et on va s'amuser à retourner, en gros, ces cartes pour essayer d'avoir des indices sur cette carte en particulier, sur notre panorama. Et on va avoir un paquet de cartes à côté sur lesquelles on va avoir plein d'indices et on va pouvoir développer un peu sa recherche en allant récolter des empreintes, en allant parler à des personnes extérieures, en sortant de notre lieu et en essayant de résoudre notre petite enquête.
Ça se joue en combien de temps, ça?
Alors là, sur le salon, on peut jouer à la démo, et la démo, elle se joue à environ en 45 minutes, je dirais.
Ok, ouais, t'as un côté mini escape game qui joue en une heure.
C'est ça, très très bien, et la boîte de base, il nous disait environ une heure.
Ok.
Ah, c'est plus jeu d'enquête que escape game, hein. C'est pas vraiment des trucs de logique, quoi. C'est vraiment une enquête qui se développe, et faut...
C'est le format que t'achètes pour jouer avec tes potes une fois en soirée.
Ouais. C'est quoi, c'est un système de questions à la fin, ça, justement, comme dans Q-System?
Oui, tout à fait, c'est vraiment un système de questions, et à la fin, on va nous dépiler toute l'histoire et nous expliquer pourquoi il y a eu tout ce meurtre, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, quoi.
Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rebondir là-dessus? Non. Ok. On va passer à Pionfesseur.
Yes. Bah moi du coup j'ai pu jouer à Le Renard des Bois Duo, qui est donc une espèce de spin-off de Le Renard des Bois. J'aime bien, ça fait de Le Renard des Bois.
C'est bien fait. Hein.
De Le Pionfesseur, j'aime bien quand ça fait ça. Donc c'est un jeu de pli coopératif à deux joueurs, ce qui est déjà plutôt conceptuel et bizarre. Des jeux de pli coopératif, on en a vu là récemment avec Dicrew, donc qui avait un peu lancé je vais pas dire la mode, mais qui a lancé un pavé dans la mare en créant ce nouveau style. Le Renard des Bois Duo, c'est assez différent parce qu'en fait on n'a pas vraiment le même feeling qu'un jeu de pli, dans la mesure où on n'essaye pas de remporter ou de laisser remporter à l'adversaire des plis. On essaye de faire en sorte que les cartes qu'on joue déplacent un pion d'une certaine manière. Donc en fait, on remporte des plis, mais ça va permettre, selon les cartes qu'on a jouées, de bouger un pion sur une piste et il faut l'amener à certains endroits, voilà, pour ne pas trop détailler plus que ça. Donc c'est un feeling quand même assez différent. Il y a toujours des histoires d'atouts, de couleurs à suivre, etc. Mais bon, c'est pas vraiment au jeu de la carte que tout va se jouer, quoi. À la base, ça partait sur un bon concept. Moi, je reste sur un moyen, on va dire. C'est ni un top ni un flop. C'est une légère déception, on va dire, dans la mesure où il y a trop de capacités spéciales. Donc du coup, en fait, ça rend le jeu trop ouvert. Et en fait, on est un peu paumé, quoi. C'est-à-dire que soit t'as trop de en fait, j'ai l'impression qu'on a tellement de contrôle que du coup on sait pas vers où aller et on finit par jouer les cartes un peu au pif, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que le jeu est trop calculatoire ou trop complexe pour pas grand-chose, alors qu'il aurait pu être plus épuré et ça l'aurait rendu plus sympa, quoi.
Ouais. On a joué ensemble, j'ai eu à peu près un peu le même feeling. Effectivement, on n'a pas l'impression de jouer à un jeu de pli, en fait, c'est bizarre. C'est vraiment une mécanique de pli, hein, avec les couleurs, les atouts, tout, mais bon, K2, et du coup ça. Et du coup, mais ça fait un mélange qui donne autre chose, quoi.
Alors du coup, voilà, il a le mérite d'être original, donc je conseille quand même aux gens de regarder au moins le jeu ou de le tester juste pour le côté bizarre, parce que moi j'aime bien quand il y a des jeux un peu bizarres comme ça. J'ai oublié de dire, c'est chez Renegade Games en France, c'est édité par Foxtrot Games en donc aux États-Unis. Par contre, il y a pas d'auteur sur la boîte, c'est Foxtrot Games l'auteur. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, donc. On ne sait pas qui est l'auteur.
C'est peut-être un développement interne.
Ouais, ça doit être peut-être un collectif d'auteurs ou un truc comme ça, un peu comme Prospero Hall ou je sais pas. Okay.
D'accord. On passe à Paul Garo.
Oui, donc le premier jeu auquel on a joué ce matin, c'était une bonne pioche puisque c'était Fabulia de Wilfried et Marie Faure, donc qui est édité par Lifestyle Games, donc l'éditeur russe. C'est un jeu dont on a déjà beaucoup entendu parler avant même d'arriver à Cannes. C'est un jeu assez particulier parce que on a un fonctionnement avec une sorte de livre dans lequel on a des pochettes plastiques où on va pouvoir insérer des cartes. Les cartes, en réalité, c'est des cartes d'histoire, donc il y a plusieurs histoires. Pour celles qu'on a jouées, c'était un peu type conte de fées. Chaque carte, en fait, on va avoir plusieurs comme des petits chapitres. On va lire l'histoire et dans chaque chapitre, on a un personnage déterminant. Par exemple, le vaillant chevalier ou bien la belle demoiselle ou l'ensorceleur avide, etc. Et on a un paquet de cartes avec des animaux et à chaque tour, on doit poser la carte de l'animal qu'on pense correspondre le mieux au personnage du chapitre. Ensuite, on mélange ces cartes, on les dispose devant soi et chacun doit voter pour le personnage qui représente le mieux l'animal qui représente le mieux le personnage. Voilà, et bien sûr, on n'a pas le droit de voter pour son propre animal, hein, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Et donc après, en fonction du choix, on va marquer des points. Si votre carte a été choisie, vous marquez 3 points. Si vous êtes dans la majorité, vous marquez 1 point. Sinon, vous avez rien. Et ensuite, on intègre l'animal dans la pochette plastique, en fait, qui est on a sur les deux pages, on a une page avec le texte, une page avec l'animal. Et une fois qu'on a terminé ça, bien sûr, il y a un vainqueur. Je pense qu'il y a un mode aussi coopératif pour les vraiment petits. Mais on a aussi, ça fait comme un livre et on peut relire l'histoire avec, du coup, les illustrations qu'on a intégrées. Donc la réalisation est vraiment très très belle. C'est visuellement le livre fonctionne très bien. C'est sûr que ça plaira à des enfants. Les illustrations sont très très réussies. Moi je trouve que le concept est assez intéressant parce que ça devient quand même t'inclus de la narration. Dit comme ça, vous avez peut-être l'impression que l'intrigue elle était un peu simplette, mais pas du tout parce qu'il y a beaucoup de touches d'humour dans l'histoire. Justement, il y a beaucoup de choses qui cassent un peu, dans ce qu'on a vu, ça cassait un petit peu le mythe des contes classiques pour les enfants. Bon, moi, franchement, le jeu est très bien, je peux que vous le conseiller si vous avez des enfants qui sont tout à fait prédisposés à être dans le narratif, qui aiment les intrigues, les histoires, qui sont déjà très créatifs. Et c'est super agréable en tant qu'adulte d'y jouer avec eux.
À partir de quel âge?
Je crois que ça va être 5 ans. Si vous avez des enfants un petit peu, qui sont assez demandeurs en termes de lire, qui aiment beaucoup lire ou qui aiment beaucoup qu'on vous leur raconte des histoires, ils rentreront très vite dedans. On peut le relire le soir. Enfin, c'est une très belle réalisation. Moi, je trouve que c'est assez original, la façon de jouer. Après, le fait de jouer des majorités en soi, c'est pas révolutionnaire. Mais comme le but, c'est de l'intégrer dans l'histoire, en réalité. Enfin, même si on joue en compétitif, le but, c'est de créer l'histoire commune qui sera la plus adaptée. on peut très bien l'imaginer dans la prochaine sélection enfant de l'Asdor. Enfin, vraiment, hein, il a tout pour plaire.
Oh, ça y est, ça prend déjà des paris.
Bah, écoute, franchement, il est original, ouais. Beau, par des auteurs qui sont quand même très reconnus dans le jeu pour enfants. Mmh. Et je pense qu'il va être vrai. Il a énormément buzzé, donc enfin après on est peut-être que du coup c'est un mauvais timing hein, pour l'année, pour dans un an, je ne sais pas. Mais c'est assez original en tout cas pour être souligné que ça nous sort des jeux classiques auxquels on est habitué pour les enfants. Bon moi voilà, donc moi Paul Guerra Junior aura sa boîte en rentrant.
Ok, Hammer, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, juste pour ajouter, moi qui suis pas client de jeux pour enfants simplement parce que j'ai pas le public à la maison. Je l'ai trouvé très bien fait. J'ai trouvé notamment, je vais y retrouver un petit goût de Dixit avec cette histoire de voter pour les images. Et puis surtout les tours vont vite. On écoute le petit bout d'histoire et puis on vote. On nous a aussi dit que donc les histoires ont différentes longueurs. Hein, ça c'est, je crois entre 7 et 10 cartes. Et il y a certaines histoires, je crois, où il peut y avoir un embranchement. On prend une décision pour aller vers une branche de l'histoire ou une autre. Donc oui, vraiment une bonne pioche. Très joli jeu pour enfants.
Ok. Je vais aller chercher quand même le nom des illustrateurs, du coup, parce que tu disais que c'était bien fait.
Dans les illustrateurs, il y a c'est des noms. Il y a Irina Pechenkina, qui est la même que Roulapic.
C'est Irina Pechenkina.
Ouais, mon accent russe n'est pas du tout au niveau. Et Eugène ou Evgeny, je ne sais pas.
Non, c'est ça, c'est Eugène Slolenseva.
Voilà. Ouais. Voilà, j'ai malheureusement.
Non, c'était pas un interrogatoire, c'est juste pour dire. Voilà,
Non, mais en plus, on a regardé parce qu'on a regardé exprès avec Hammer parce que on a tité que c'était le même que Roulapic. Enfin, la une identique à Roulapic. On a oublié les noms.
Eh ben, Roulapic, c'est aussi Lifestyle Game en fait à la base. Donc,
c'est une coédition avec Gigamic.
Ouais.
Roulapic.
Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Twin.
Oui, alors moi je suis pas du tout constructif. Hein. J'ai aimé tous les jeux auxquels j'ai joué parce que j'ai battu Fenduel à chaque fois. Donc je vais.
Ah, c'ah cruel ça.
Je ne vais rien dire et je vais passer la main à Cargo.
Cargo donc à toi.
Moi j'ai pas battu Fenduel parce que j'ai pas joué avec lui, mais je serais ravi de le faire demain.
Merde.
Alors je vais vous parler de Flying Goblin. Je vais commencer par la fiche signalétique. C'est un jeu de Théo Rivière et de Corentin Lebras. Illustré par Thomas Larek et édité par Yellow. Alors pour le pitch, c'est un jeu où les joueurs incarnent chacun un clan de gobelins qui attaquent un château qui comporte un beau donjon. Le but du jeu est d'être le premier à atteindre 25 diamants, qui en fait correspond à la ressource qui va être pillée dans le château, ou bien de construire un totem à l'intérieur du château. Et le premier qui atteint un de ces deux objectifs a gagné. Et pour ça, c'est ça qui est marrant, c'est pour ça que ça s'appelle Flying Goblin, c'est qu'on va catapulter les gobelins à l'aide d'une petite catapulte qui est un système de bascule en bois. On a chacun à disposition deux gobelins au début du jeu. On les envoie avec la catapulte tous en même temps à l'assaut du château. Les gobelins atterrissent sur le château qui est séparé en différentes cases. Et en fonction de là où sont arrivés les gobelins, vous allez pouvoir réaliser l'action. Ça peut être de récupérer des pièces, et ça peut être de récupérer des diamants, ça peut être de voler des diamants, et ce genre de choses. Donc c'est assez marrant parce qu'on catapulte des gobelins, on s'est bien amusé. Il y a quand même quelques moins bien, c'est-à-dire que Le matériel était assez difficile à utiliser, c'est-à-dire que pour le catapultage c'était vachement réussi. Par contre, quand il fallait chercher les pièces qui sont en fait les systèmes de rangement à l'intérieur du château, c'était pas forcément évident. On a fait plusieurs fois tomber les petits toits, c'était pas l'idéal. Les pièces tombent souvent, bien sûr, on a mis beaucoup de passion. Alors les pièces sont souvent tombées par terre. Et je suppose qu'à la maison ça va être un peu la même chose. Le jeu est donné de 30 minutes à 1 heure. Le jeu est donné de 30 minutes à 1 heure, donc c'est ce qu'on a fait. Pour un party game, parce que ça se veut quand même party game, parce que c'est chaotique, on s'envoie des pièces à la figure et tout, moi j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long. Hein, on a dû mettre 45 minutes à peu près.
Ouais, je crois que leur but à la base c'était de refaire Dungeon Fighter. C'était d'avoir le Dungeon Fighter à eux de chez Yellow qu'ils auraient développé en interne, donc une espèce d'alias entre c'est à la fois un jeu de stratégie, mais c'est à la fois un truc où les gens font n'importe quoi autour de la table. Après, ça n'a pas le côté adulte que peut avoir Dungeon Fighter. Ça n'a peut-être pas le côté stratégie et sans doute beaucoup plus le côté très con en fait. Mais est-ce que ça vise pas vraiment la même cible. Je sais pas si en termes de cible, si c'est réussi en fait, Flying Goblin. Je sais pas si ça va toucher forcément les joueurs que ça devrait toucher.
Alors nous, on l'a plus joué en party game qu'en jeu de stratégie, ça c'est sûr.
Ouais.
Surtout que notre but à nous, c'était au moins réussir à toucher le château et pas tout mettre à côté. Donc le jeu aurait sans doute été beaucoup plus court si on avait réussi à atteindre notre cible et si on avait une stratégie clairement définie. Ça c'est sans équivoque. Après le système, il y a un système d'amélioration dont j'ai pas parlé. En fait, vous allez récupérer des pièces. Les pièces vont vous permettre, comme dans un jeu de placement d'ouvriers, à récupérer des ouvriers, enfin à récupérer des gobelins pour en catapulter plus, en récupérer des gobelins qui sont plus forts que d'autres. Et ça c'était assez cool. Sauf que le système de récupération de pièces demande du temps, selon un nombre de tours conséquent. Donc moi j'ai passé un bon moment. Je me suis bien amusé, même si j'ai trouvé un petit peu long.
Ok, d'accord. Un retour mitigé, mais amusant.
Et juste, Simon, toi tu disais, parce que moi j'ai joué avec Cargo et avec mon fils, toi tu disais ça s'adresserait plus à quel type de joueur pour toi?
En fait, clairement, pour en discuter avec les gens de chez Yellow, leur intention c'est d'avoir un truc que tu vends pas spécialement à des enfants, en fait, pas particulièrement. Que tu vends à des gens qui veulent quand même un truc un tant soit peu stratégique. Alors, vu que ça se joue en simultané, ton cerveau, du moins la règle de jeu, te suggère de prendre ton temps, de bien viser. Mais en fait, ça s'appelle Flying Goblin, c'est complètement con, tout le monde joue en simultané, donc tout le monde fait n'importe quoi. Je sais pas si l'intention de dire c'est un jeu de pose d'ouvrier où tu catapules des trucs à l'intérieur, si l'idée de faire un jeu de pose d'ouvrier un peu rigolo, si c'est, ça devient pas juste trop bordélique et que du coup l'aspect intense un peu stratégique si tu passes pas complètement à côté.
Ouais, c'est un jeu de lancer d'ouvrier, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'était le but, toi.
À titre perso, moi, j'ai trouvé que c'était très très long, en fait. Parce que, effectivement, tu joues en simultané, donc en principe, ça veut dire des tours rapides qui s'enchaînent. Le seul problème, c'est qu'après, quand tu passes à la phase pillage où tu vas récupérer, alors je pense qu'il faut pas mettre les ressources dans le plateau, faut les mettre à part. Parce que c'est une catastrophe d'aller les récupérer. Et toute cette phase-là est tellement longue que ça te sort du jeu.
Ouais, et bon, voilà. Donc, t'as plus de résolution que d'action.
Ouais, moi j'ai pas du tout aimé, enfin, personnellement. Après, c'est pas, vous savez bien que la dextérité, c'est pas mon truc, donc.
Pour rebondir
ça, ça s'est vu au score, hein.
Pour rebondir ce que vous dites.
Rebondir, c'est beau.
Et c'est quoi ces vannes sur les scores? Tu veux qu'on reparte de Sushiro, là?
Pour rebondir sur ce que vous disiez, on a eu Théo, justement, tout à l'heure, en interview. Et son envie, c'était de faire, comme disait Simon, vraiment du Dungeon Fighter-like, quoi. Essayer d'avoir un jeu qui sort de l'ordinaire comme du Dungeon Fighter, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent aujourd'hui des jeux comme ça. Et il avait aussi un doute sur un problème de ciblage de public derrière. Il a envie qu'on joue vraiment en suivant les règles et en essayant de faire ça stratégiquement. Lui, c'est son envie de base, il nous disait vraiment dans sa création. Et il a l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à communiquer là-dessus et pas arrivés à mettre ça en avant sur leur jeu.
Ouais, j'en ai pas parlé avec Théo, mais c'est le ressenti que t'as quand tu joues au jeu. Tu te dis, mais ok, je vois l'idée, mais c'est pour qui? C'est pas pour les enfants, c'est peut-être pas trop pour les familles, c'est peut-être pas trop pour les gamers. Tu sais pas trop pour qui ça s'adresse. C'est pas, j'ai pas du tout l'intention, j'ai pas du tout l'impression de jouer à un jeu raté, c'est cool. Mais, ça me satisfait pas immensément moi, et je me dis, ça va satisfaire qui? Je sais pas trop. Mais tu passes pas spécialement un mauvais moment, mais c'est pas, voilà. Ça sera peut-être un peu plus oubliable, quoi.
En tout cas, mon fils, lui, qui a 11 ans, a vraiment aimé, hein. T'as bien aimé, Oui. Voilà.
Est-ce que c'est pas ça, la cible? Est-ce que c'est pas les ados, en fait?
Voilà. Bah ouais, je pense que c'est peut-être, ouais.
Mais ça coïncide pas avec son anniversaire bientôt?
Je pense que j'ai eu la commande et pour l'instant j'ai résisté.
Si vous écoutez ce podcast et que vous avez 11 ans, ce jeu est pour vous.
Ok, bon, on passe au suivant alors du coup. Donc fin de Noël.
Oui, donc moi j'ai joué à Imagician, qui est un jeu de chez Blam. L'auteur est Olivier Mahy, M-A-H-Y. Chez Blam, donc Imagician, c'est un jeu assez étonnant. Au centre de la table, on va avoir des cartes avec des objets qui sont reliés les uns aux autres via un trait. Devant nous, on a un mini plateau avec plein d'objets, mais vraiment 30 par 30 ou 40 par 40. Et l'idée, c'est de trouver les objets qui correspondent à la carte, les relier avec un feutre qui va nous permettre de tracer une forme et de deviner quelle est la forme qu'on a essayé de nous faire deviner. Dès qu'on sait le nom de la forme, bah, par exemple, voilà, j'ai tracé un escargot, je vais écrire escargot, je retourne le truc, je mets en place un sablier, et les autres doivent finir dans le temps imparti. Si j'ai réussi à trouver, je gagne 2 points, les autres gagnent 1 point. Et en fait, c'est super original, basé sur du... ça fait penser vraiment aux jeux où on
joue dans les magazines.
On relie, ouais, voilà, on relie les trucs pour former quelque chose.
Tu relies des chiffres en fait simplement.
Et,
hein,
et en compétition, ouais, mais sauf que c'est des chiffres. Là, c'est des objets et t'as vraiment de tout. T'as des citrouilles, des champignons, comme des ingrédients, tu vois, de magicien et que tu vas relier ensemble. Et il y a des objets qui se ressemblent, donc c'est un petit peu piégeux. C'est vraiment assez dur. Et t'as un aspect pour handicaper celui qui gagne souvent. Tu peux jouer avec un côté qui est en noir et blanc. Alors là, c'est juste affreux. Mais voilà, il y a une question d'habitude. Et c'est très sympa, vraiment très très sympa. J'ai passé un bon moment.
Ok, super. Bon, ça c'est chez Blam. Hein.
Oui.
Ok. Et Hammer?
Oui, moi je vais vous parler de Wild Space chez Catch Up Games. C'est un jeu de Joachim Thaume, illustré par Amélie Guinée. Alors c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pardon, donné pour 10 ans et plus. On y a joué nous à 5 joueurs. La partie était peut-être un petit peu longuette pour une première partie, surtout. Donc, de quoi s'agit-il dans Wild Space? Eh bien, c'est un jeu principalement de collection et de combinaison de cartes. Ça se joue en un nombre fixe de tours, de 10 tours. À chaque tour, on va utiliser un de nos petits vaisseaux pour déclencher une action qui peut être soit une pioche de cartes, soit une pose de cartes. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on pose des cartes, il y a des effets sur ces cartes qui permettent de repiocher, de reposer, etc. Donc il s'agit évidemment de faire les meilleures combinaisons pour essayer de poser non pas une carte à chaque tour, mais plutôt 3, 4, 5, pourquoi pas, et essayer de faire des collections. Le thème, c'est un thème spatial avec des animaux anthropomorphes qui sont très jolis d'ailleurs. Je trouve la direction artistique très chouette.
C'est du... ça ressemble à du cel shading un petit peu des jeux vidéo, je trouve.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc avec des animaux anthropomorphes qui vont venir s'accumuler devant toi pour former les membres de ton équipage, et puis des planètes sur lesquelles tu vas envoyer tes vaisseaux qui vont te permettre de faire les actions en question avec différentes contraintes. Ah bah là, va peut-être falloir défausser une carte, ou faut que tu aies déjà posé une carte de tel type pour avoir le droit de faire l'action, etc., etc. Je dirais qu'en termes de mécanique de jeu, ça ne révolutionne rien. Selon moi, mais par contre c'est très très agréable, comme dans tous ces types de jeux, d'arriver à faire les bonnes combinaisons. À la fin, tu fais ta petite salade de points en fonction des animaux de même type ou des collections d'animaux différents que tu as réussi à faire.
Ça joue plutôt dans son coin ou c'est
Ouais, c'est carrément dans son coin.
Ouais, c'est dans ton coin. Le seul endroit où tu peux interagir, c'est au niveau de la pioche. Il y a une rivière de 3 cartes. Donc éventuellement, oui, tu peux piquer la carte à l'autre juste devant lui, parce que il cherchait absolument un singe. Et puis toi, il te le fallait, quoi.
Bah, si tu sais qu'il a besoin d'un singe aussi, quoi. Enfin, non.
Ou alors tu peux aussi défausser une carte pour virer toute la rivière de cartes et en mettre 3 nouvelles. Donc il y a une petite interaction à ce niveau-là, mais par exemple sur les planètes, on peut très bien être à plusieurs sur la même planète, donc bon, c'est plus un solitaire à plusieurs, comme on le dit souvent.
Ok, d'accord. Et Simon, est-ce que il y aurait un jeu qui t'aurait tapé dans l'œil aujourd'hui dont tu aimerais
parler?
Ouais,
mais je vous regarde faire, et en fait chaque fois vous débarquez en disant le nom de l'auteur, de l'illustrateur. Ah. Je viens de chercher sur Google, c'est un truc qui sort dans plusieurs mois et aucune info nulle part. Alors moi j'ai joué à Forms, voilà, et c'est chez Yoka by Tsume.
Ouais.
Alors c'est encore une énième connerie de jeu d'ambiance où tu fais des dessins, et comme le veut la loi de maintenant, c'est un jeu d'ambiance coopératif. Évidemment. Alors, le but est d'arriver à faire deviner un mot à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui va chercher. Et c'est un jeu de dessin. Donc, on va tous... Il y a une ardoise, une grande ardoise blanche au centre de la table. On a un petit feutre dans la main. On va piocher une carte qu'on va se passer entre nous pour dire, voilà, on essaie de faire deviner les gremlins. Ok, très bien. Autour de la table, on a tous reçu une petite carte. Genre, ok, moi, je vais dessiner, mais moi, je suis le carré. Je ne sais faire que des carrés. Ou à la limite, des rectangles, tu vois. Le joueur d'à côté, il ne sait faire que des ronds. Le joueur d'à côté, il sait faire que des triangles. Et chacun son tour, il faut qu'on rajoute un morceau de dessin pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive à trouver les gremlins. Bon, alors c'est méga chaud. Du coup, c'est un petit peu joueur, quoi. Alors, t'as différents types de cartes, t'as des trucs geeks, t'as des trucs plus familiaux, machin. Et c'est, t'as 2 minutes pour essayer de faire deviner un maximum de choses au mec qui cherche. Tu galères comme un âne, t'as des quelques actions qui te permettent d'effacer ou de remplir une zone.
Et t'as le droit de parler ou pas aux autres?
Ah non, t'as le droit de dire, putain, c'est galère, il trouvera jamais, mais c'est tout ce que tu peux dire.
D'accord,
c'est...
non mais tu peux pas dire, dessine un truc là, ou ce genre de choses?
Non, c'est l'espèce de communication non verbale. C'est Gremlins, typiquement. J'ai compris au bout d'une heure et quart que les mecs, ils étaient en train de dessiner un radio réveil pour que j'écrive des zéros à l'intérieur de minuit, si tu veux, quoi. Et moi, je disais, c'est quoi la télécommande qu'ils font à côté? Et moi, je dessinais un Gremlins, et le mec, il est venu me faire un triangle à la place de la bouche. Enfin, t'es genre, non, ça va pas. Enfin, c'est typiquement ce genre de connerie-là. Si jamais tu galères trop, tu peux passer le mot, je crois. Et ça fait qu'il faut qu'on draft en plus, tu changes, t'es plus le carré, t'es le triangle. Enfin, t'as des conneries. Bon, ben, c'est très efficace. C'est méga con. Et c'est toujours pareil. C'est le énième jeu de dessin dans lequel on demande de faire des formes, des ronds. Oui. Mais si le énième, il est un peu meilleur que les autres, moi, je dis, ok, banco, ça me fait marrer. J'ai envie d'y jouer. J'y ai joué, c'était marrant. J'ai envie d'en refaire d'autres, de tester d'autres cartes. En avant. Je crois que, je sais pas, ça va coûter 25 balles, un truc comme ça. Et je crois que ça sort en avril, cette petite chose-là. Ça s'appelle Forms.
Très bien. Mais écoute, merci. On ira jeter un coup d'œil demain. Du coup, dans l'histoire, je me suis oublié. Je voulais parler de top 10.
On allait dire, et toi, Cyrus?
Ah, merci, c'est gentil. T'étais prête à me passer la parole.
Vous vous en rendez pas compte comme ça, radiophoniquement, mais cet homme s'est oublié. Voilà. Pour nous, ça représente quelque chose.
Ok. Très bien. Merci beaucoup, Simon.
Oh, de rien, c'est cadeau.
Ah, du coup, je sais pas si je vais, parlons de top 10. Parce qu'on a été plusieurs à beaucoup apprécier top 10.
C'est la
sortie Cocktail Game. Alors, ça sort dans un mois, je crois, en vrai. Et c'est un jeu de Aurélien Picolet. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier jeu. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont collectivement, c'est aussi un jeu coopératif.
C'est un jeu d'ambiance coopératif.
Ouais, c'est ça.
Ami de 2020, bonjour.
je suis assez d'accord avec toi que c'est quand même assez tendance. Et donc dans ce jeu-là, un joueur va recevoir une phrase, une situation, un contexte. Il va falloir qu'il propose quelque chose qui va l'aider. Ou à l'inverse qui va l'handicaper. Je crois que l'exemple qui est donné c'est quoi? C'est le il y a le naufrage du Titanic. Donner un objet qui soit ne vous aurait pas du tout aidé ou soit vous aurez beaucoup aidé. Et en fait on va avoir une échelle comme ça. Donc chaque joueur va recevoir une carte qui est numérotée de 1 à 10. Et donc il va falloir donner celui qui a le 1 un truc qui est vraiment tout pourri, qui n'aurait pas du tout aidé pour se sauver du naufrage du Titanic, genre une enclume. Et celui qui a je sais pas le 5 par exemple, il va dire peut-être une bouée par exemple, ça m'aurait un peu aidé, mais bon pas tant que ça parce que bon il gèle quand même. Et donc il va falloir, chaque joueur va devoir faire une proposition pour qui doit coller avec le chiffre qu'il a obtenu. Et ensuite le captain, un des joueurs va devoir essayer de remettre les propositions dans l'ordre, sachant que lui il sait le chiffre qu'il a évidemment, mais il sait pas les chiffres qu'il y a autour de la table. Donc lui il va servir un peu d'étalon et les autres joueurs vont essayer de dire ok, alors s'il a dit ça, est-ce que moi je suis pire, je suis en dessous, et tout le monde fait une proposition mais en vrac, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre du tour, il n'y a pas... Et ça aussi, ça peut rentrer aussi un petit peu dans le metagame.
Ouais, ce qui est malin, en plus, c'est que tu cherches pas à savoir si l'autre, il a le 2 ou s'il a le 4. Tu cherches à voir si l'autre a un plus grand numéro ou plus petit. C'est l'ordre, c'est plus que ce numéro. C'est vachement bien. Ça, ouais. Et c'est pas toujours des trucs où tu parles, en fait. C'est ce qui est rigolo aussi dans le jeu. C'est que là, tu donnes un exemple où, effectivement, t'as un qui prend une enclume et l'autre, il prend une porte d'armoire. Mais ça peut être du mime, ça peut être le genre de conneries là aussi qu'on demande à faire dans le jeu, ouais. Donc, il se passe plein de choses différentes à l'intérieur. Je crois que c'est unanime, tout le monde est à donf.
Ouais, c'est super bien. Ouais, on a vraiment aimé, on s'est bien amusé.
Quand on avait lu le pitch, on a eu peur d'une ressemblance un peu forte avec Wavelength, parce que Wavelength, c'est le même principe, en fait, hein, qui est derrière. Il faut estimer, on a une échelle aussi, un truc tout pourri vers un truc super top, et puis il faut faire une proposition dessus, quoi. Et finalement, ça donne quelque chose de très très différent, partant d'une même idée, d'un même principe, on a des choses très différentes. On en parle dans l'interview. Et justement, Mike nous explique que justement, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils se sont aperçus au moment de la sortie de Wavelength qu'ils avaient une variante dans leur développement qui ressemblait à ce que faisait Wavelength. Et donc, bon, ouais, ils se sont retrouvés un peu. Ils ont écarté la variante en question.
En fait, au final, je pense que les deux dérivent un peu de Profiler, qui a.
Il y a un peu de ça aussi, ouais.
Qui a un peu lancé l'idée de estimer quelque chose sur une échelle. Voilà, et donc
c'est un principe de chaud-froid en fait, hein.
Ouais, le principe de chaud-froid est dans du party game coopératif. Et du coup, on sent à mon avis qu'il y a une inspiration dans les deux cas. Et c'est ce qui crée un peu le fait qu'il y ait deux jeux qui sortent en même temps avec quasiment la même mécanique de base, je pense. Ça crée une espèce de zeitgeist, comme on dit, d'air du temps.
Ok, ouais.
Par contre, Wavelength, lui, n'est pas coopératif. C'est un jeu oui, équipe contre équipe. Équipe
ouais. Ouais, mais c'est quasi la même chose, en fait. Quand tu réfléchis, en fait, t'as quand même la communication avec des membres de ton équipe. Que ce soit coop ou en équipe, ça revient au même, en fait, en termes de sentiment de jeu.
Ouais, ouais. Je suis bien d'accord.
Puis les jeux en équipe, c'est très 2017, ça, par contre. C'est ouais, pas fashion c'est
passé,
du tout.
Ouais, c'est passé un peu. Ah, on a quelqu'un d'une boutique qui sent bien les tendances. Hein, c'est...
Alors 2021, ce sera le jeu d'ambiance asymétrique, sachez-le. D'accord. Voilà.
Très bien, merci pour cette information.
2022, je connais la tendance et quand tu commences à préparer des fichiers consulting pour les éditeurs qui voudraient la connaître, j'ai une tarification à disposition.
Voilà, bah, vous nous contactez, on vous renverra vers Simon, on vous donnera ses coordonnées. Alors on a aussi quelques déceptions aujourd'hui, malheureusement. On va parler de Candylab. Qu'on a essayé chez Funny Fox.
Ouais, c'est un jeu qui est assez frustrant parce que quand on passe à côté, bah, on a l'impression qu'on a des bonbons qui sont posés sur la table. Donc il y a un aspect visuel qui est hyper catchy et qui donne vraiment envie de manipuler les trucs. Ensuite, il se trouve que dans notre groupe, malheureusement, on a un daltonien. Donc déjà, ça enlève beaucoup de fun au jeu. C'est-à-dire qu'il était incapable de distinguer certains des bonbons par rapport aux autres, vu qu'ils se distinguent juste par la couleur. Donc on a trouvé un petit système en les décalant un petit peu, mais c'est... voilà. Et voilà, c'est un petit jeu dans lequel on va jouer des cartes, prendre des bonbons au centre de la table en fonction des cartes qu'on a posées, avec des effets sur les bonbons, et ça rend le jeu un petit peu interminable. Donc c'est voilà, c'était pas voilà.
Ouais, je sais pas, il y a une,
je sais pas comment dire,
il y a une sauce type, enfin il y a ouais, il y a une mayonnaise qui prend pas quoi. C'est en fait il y a c'est les bonbons sont en forme de bâtonnet, donc ça ressemble. Je pense que tout le monde connaît le truc des comment. Oui, oui, c'est des sucres d'orge, mais ils sont en forme de bâtonnet, ce que je veux dire, et c'est le principe du jeu qu'on a pu voir dans Fort Boyard, où voilà, où il faut prendre un bâton, deux bâtons, trois bâtons, et donc on a ce principe de prise, voilà. Mais le principe, c'est pas de dire je dois pas être le dernier à prendre un bâton, je sais pas quoi. Il y a
plus à remplir des contrats.
Voilà, c'est ça. Il faut remplir des contrats en prenant les couleurs qui sont adjacentes les unes aux autres. Mais effectivement, je sais pas, il y a un truc, il y a des systèmes où on remet, c'est hyper chaotique, ça part dans tous les sens, et on s'échange ses cartes, on remet des bâtons au milieu, on fait défausser des cartes aux autres, on rééchange, bon, bref, c'est.
Mais plus que chaotique, c'est surtout très opportuniste en fait. C'est-à-dire que t'attends ton tour et tu regardes s'il y a un pattern.
Ah oui, enfin, complètement.
C'est un motif de ta main qui correspond à quelque chose que tu peux jouer. Et si tu peux le faire, tu le fais. Sinon, tu passes ton tour et tu remets des bonbons au milieu et du coup, ça rend la partie interminable. Enfin, c'est vraiment un sentiment de t'as pas de contrôle. Tu joues le meilleur coup possible et puis voilà.
Mmh. Exactement ça. Donc voilà, donc ça c'était Candylab chez Funny Fox. Ensuite, certains d'entre vous ont essayé Lantern Dice.
Oui, je peux t'en parler un petit peu. Donc Lantern Dice, c'est la version Roll and Write du jeu Lanterne, dont vous vous souvenez peut-être. C'était un jeu de pose de tuiles avec des tuiles avec quatre couleurs. Donc là, ça reprend le même principe, sauf qu'on a chacun une fiche. Et puis donc, il y a des dés avec des faces de couleurs qui vont former à chaque tour une tuile virtuelle, en quelque sorte, avec quatre couleurs. Et puis, on va donc cocher nos demi-carrés en fonction de la couleur qu'on a récupérée pour essayer... de réaliser des formes qui vont nous permettre de prendre des tuiles pour recouvrir tous les carrés qui ont été noircis, pour marquer des points. Il y a d'autres systèmes de bonus. On a trouvé ça, je pense, pour en parler pour Paul Gara et Astien, un peu longué. J'ai aussi trouvé que la feuille sur laquelle on vient noircir ces triangles là était vraiment assez difficile à lire, à visualiser, quoi. Franchement, et puis pas de progression dans le jeu. Vraiment toujours un peu la même chose. Pour moi, c'est quand même une déception. Tu me diras peut-être que c'est normal parce que c'est un Roll and Write.
Oh non, jamais je dirais ça, moi.
Bah, c'est sûr qu'on a voulu faire nos malins et aller faire un Roll and Write juste pour t'emmerder. Et puis, on a été bien pris au piège parce que c'est très très long. En fait, je crois que c'est le principal truc, c'est que c'est interminable, et puis t'es censé avoir un système de trucs qui te déclenche des bonus, qui font que tu peux recocher des cases, mais au final t'as même pas tellement envie de t'en servir. Enfin c'est pas la feuille est vraiment pas jolie quoi. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire quelque chose avec le thème. Ils auraient pu faire au moins quelque chose qui était agréable visuellement. Mais là en plus comme tu crayonnes tout, c'est vite, ça fait vite crado quoi. Enfin,
mais et surtout pas très lisible.
Ouais,
c'est
lisible
ça
en
le
plus,
problème. Il y a certaines couleurs qui sont vraiment très proches les unes des autres.
Oui, tout à fait. Et justement avec ce système de combo, très vite, enfin le jeu déjà est pas très lisible comme vous disiez. Ouais. Et très vite, on se retrouve à vouloir utiliser ses pouvoirs d'un coup, et on va enchaîner les actions, et du coup, on dit à tout le monde, attendez, je coche mes 5, 6, 7, 8 cases d'affilée, parce que j'ai pu enchaîner tel pouvoir, plus tel pouvoir, plus tel pouvoir, plus tel pouvoir, et ça devient long pour tout le monde, quoi. En fait, on joue longtemps, et puis quand c'est l'autre qui va le faire, on va attendre. Ça dure 6 tours, par joueur, donc ça devient long, avec une feuille beaucoup trop grande pour autant de tours, quoi. Il y a beaucoup trop de choses à faire sur la feuille, même si le jeu est très long, quoi.
Ok, ben, merci à vous pour le retour. Donc, ben, vous aurez compris, on vous conseille des choses, on vous déconseille certaines choses aussi, hein. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ce soir, c'est la remise de l'As d'Or. On va pas se tenter un pronostic parce que le débrief sera diffusé demain matin, hein. Mais bon, on sait tous que c'est Fiesta de Los Muertos qui va gagner, puisqu'on a les résultats à l'avance.
Et route,
bien sûr. Et roule à pic. Mais voilà.
Attrape-rêve, non? Plus. Hein?
Ah non, merde, t'as pas eu les mêmes infos que nous, toi.
Ah merde. Ah non, mais j'ai. Ah oui, qui c'est qui m'a dit qu'il s'est couché chez Proxy Jeux pour avoir des infos, je sais plus. Enfin, il y a une rumeur. Ah, qui dit ça.
Coupe s'il est poulpé.
Mais c'est pas Ressa Arcana qui va gagner.
Non, j'ai. Très bien. Bon, bah voilà. Bah, de toute façon, vous le saurez avant nous demain matin. Enfin, avant d'écouter cet épisode, je veux dire plutôt. Eh bien, merci à tous. Les chroniqueurs d'avoir participé à cette émission.
Merci. Oui, on se retrouve demain.
Merci beaucoup Simon pour ta participation.
Merci Simon. Avec du plaisir.
Ça nous a fait un grand plaisir de te recevoir. Et puis, on va dire au revoir à nos auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs. Si ce petit débrief vous a plu, sachez déjà qu'il y en aura un autre demain. Donc, n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux et notre flux RSS pour aller écouter le débrief qui va suivre. On se retrouve donc demain pour le débrief suivant, et puis on vous dit
jouez bien avec nous.